Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudycoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique sur méthodesp.rudycoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Super Physique, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, c'est la forme ou quoi ?
Salut Rudy, ça va bien. Ah, on se marre. En plus, je reviens du salon de massage là.
Encore ? Mais c'est pas possible. Tu vas combien de fois par semaine ?
J'y vais une fois par semaine. Bah depuis la dernière fois, enfin depuis que j'en parle sur le podcast, donc je sais pas combien on en est à 3-4 plus les trucs de kiné que j'avais fait. Mais c'est pas mal d'ailleurs. Bah tiens, je pourrais en parler après. Je te donnerai mon feedback sur ces massages.
Ah bah tu veux dire que les finitions sont exceptionnelles. On a vu ça. Elles sont pas chères.
Je te raconterai comme ça.
Alors, Fabrice, on a vu une news importante passer, à savoir que tu fais partie des 1 milliard de personnes qui sont obèses.
Ah oui, 8 milliards. Ça y est. Ouais, alors, je me suis demandé si je la notais celle-là, parce que j'en ai plus qu'assez de parler de l'obésité, et puis après, on me traite de grossophobe. Mais en gros, voilà, il y a une news qui est passée, et sur les 8 milliards d'habitants sur Terre, il y a 1 milliard d'obèses. Bon, ça, on savait qu'il y en avait beaucoup. Mais là où c'est étonnant, c'est qu'ils s'attendaient à ce que ce soit 1 milliard en 2030, et en fait, c'est 1 milliard en 2024. Donc, on a 6 ans d'avance, Rudy, bravo.
Ah, mais on en avance, c'est bien
ah, ouais,
ça.
Ouais. On en avance, voilà. Donc, on a
pour une fois,
voilà. Une personne sur 8 qui est obèse. Et puis, bah, la tendance va pas en s'améliorant. Alors, on verra si avec leur espèce de médicament piqûre, ils arrivent à améliorer les choses, vu que le monde ne semble pas prêt pour se mettre aux lentilles. Et voilà. Mais un truc de fou. Et en parallèle, par contre, je crois qu'il y a toujours un truc style 20% de la population qui ne mange pas à sa faim ou qui est malnutrie.
Oui, mais voilà. Ça m'étonne pas. Après, ce qui m'ennuie un peu sur ces chiffres, c'est qu'on dit 1 milliard, mais je sais pas toi et vous qui nous écoutez, mais j'ai l'impression que en fait on dit obèse, ok, parce que c'est un certain IMC, je pense. Mais
oui, c'est ça.
Il y a combien de personnes en surpoids, en fait?
Des
gens en forme, j'en vois de moins en moins. J'en vois parce que je regarde des trucs, je cherche, etc., des informations. Mais sinon, j'ai l'impression que la plupart des gens sont en surpoids, quoi.
Ouais, mais ça, je t'ai déjà expliqué, Rudy. On a déjà parlé dans le podcast, mais je suppose que tu fais exprès de faire le neuneu pour me... Effectivement. Donc, c'est le petit calcul de l'IMC qui permet de faire les statistiques d'obésité. Et donc, l'obésité, c'est le, je sais plus, faut avoir plus de 30 ou quelque chose comme ça en IMC. Et si vous voyez le mec devant vous, comme dirait Arthur Jones, j'ai pas besoin de le peser pour savoir qu'un type est obèse. Voilà. Donc, c'est énorme, en fait, quand t'es obèse. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en surpoids. Donc avec du bide, mais ils n'auront pas le seuil obésité dans l'IMC. Et pour cause, ils n'auront pas non plus les problèmes cardiovasculaires associés autant à l'obésité. Et des gens en surpoids, par contre, effectivement, il y en a beaucoup. Alors, j'ai plus les statistiques dans le monde entier, mais je t'avais déjà dit, en France, c'était 57% des hommes qui sont en surpoids ou obèses.
Ben, c'est énorme, vraiment, j'avais plus d'un gars sur deux.
Ouais, et puis après, tu peux ajouter les skinny fat, parce que les skinny fat, ils sont pas dans surpoids, tu vois, vu qu'ils sont skinny et fat, ben, ils sont pas dedans. Bref, donc voilà, mangez des lentilles et des carottes, et si vous continuez à manger des produits industriels, eh ben, vous ferez partie peut-être de ces gens-là, puisque les trois facteurs principaux qui ont été évoqués pour ça, c'était comme d'habitude. Alors, ils disent pas là, ils disent les habitudes, nos habitudes de plus en plus sédentaires et la malbouffe et peut-être les perturbateurs endocriniens. Voilà les trois critères, mais sans surprise.
Attends, endocrinien, le numéro un. C'est quand tu bois l'eau du robinet, c'est sûr que c'est ça qui te rend gras comme tout.
Donc voilà, truc habituel. Et peut-être bien, Rudy, que ce sera la dernière fois que je parle des obèses et des surpoids
pas du
sur
tout.
Ce podcast, parce que je finis par ne plus en pouvoir.
Bah non, mais ça va être, de toute façon, c'est de pire en pire. On sait très bien comment ça va finir. Avant qu'on attaque d'autres sujets, je voulais faire un petit point parce que la V3 de l'application SP Training est enfin sortie sur Android et dans les prochains jours, normalement, sur iOS, donc sur Apple. Donc, on est évidemment très content après toute cette attente, ce délai de pouvoir vous la proposer. Donc, il y a pas mal de nouveautés. Déjà, c'est que vous pouvez tester l'application gratuitement pendant un mois sans obligation d'achat. Voilà. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités. De plus, on a remplacé un peu tout ce qui était cycle de progression, préprogrammé, tout ça, par une sorte de chatbot avec ma photo. Donc, vous aurez l'impression.
C'est Rudy en version IA. On voilà. A IA-isé Rudy.
Ouais, c'est un peu ça. Mais en gros, là, ce coup-ci, en fonction de ce que vous avez fait, eh ben, je vais vous dire, on a bien réfléchi avec Pierre là-dessus, quoi faire la prochaine séance. Donc, ça programme vraiment de séance en séance et c'est pas un cycle préprogrammé. Donc, ça va modifier en fonction de ce que vous avez fait, des questions que l'application va vous poser, tout ça, le nombre de répétitions, les charges, le nombre de séries, les temps de récupération. Donc, c'est vraiment presque, j'ai envie de dire, il n'y a pas tout comme je pourrais faire dans un vrai coaching à distance comme je fais via mon site rudycoder.com, mais il y a beaucoup de possibilités afin de vous permettre ce coup-ci vraiment de mieux progresser. C'est beaucoup plus adaptatif que ça l'était auparavant. Et il y a également le fait qu'on ait rajouté un compte. Donc, ce coup-ci, si vous enlevez le téléphone, vous retrouvez tout ce que vous avez fait. C'est un truc qu'on voulait dès le départ, mais voilà, ça n'avait pas pu se faire. Donc, il y a ça. Il y a également le fait que vous pouvez utiliser l'application hors ligne, parce que je sais que dans pas mal de salles ou pas mal d'endroits, des fois, il n'y a pas Internet. Et donc, dès que vous retrouvez Internet, tout se synchronise automatiquement. Donc, ça, c'est hyper pratique. Vous avez évidemment des programmes qui sont proposés. Vous pouvez mettre votre programme. Il y a le rajout également de niveau. On s'est aperçu, et on en parle souvent dans les podcasts, que le niveau quand on débutait la musculation était beaucoup plus bas qu'à notre époque, il y a plus de 20 ans. Donc, on a rajouté des niveaux qui sont fer et cuivre. Donc, on se rappelle que les niveaux étaient basés sur les tableaux du club super physique où ça commençait au niveau bronze. Donc là, par exemple, il y a le niveau, si j'ai pas de conneries, cuivre, qui est 10 à 55 au développé couché, et niveau fer, 10 à 40. Donc, pareil, c'est adapté pour chaque exercice. On a rajouté également des exercices pour différents niveaux, comme le magic triceps, les élévations latérales, le rowing à un bras, bref, des exercices qui avaient été pas mal demandés. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus accessible et c'est beaucoup plus adaptatif. Donc c'est dispo sur Android, SP Training, premier mois gratuit, donc je vous invite fortement à essayer. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus poussé que la V2 et qui devrait, je pense, vraiment vous aider à progresser. Moi, j'ai envie de dire que c'est une nouvelle révolution, mais on va dire que je suis pas objectif, mais c'est quand même assez costaud. Là, on est vraiment, ça remplace pas le contact humain d'un vrai coaching. Les discussions, les réponses aux questions, tout ça. Mais pour ceux qui ont juste besoin d'une méthodologie, là, vous avez vraiment le gros. Vous avez 80%, 85% de la méthodo que j'ai pu développer au fil des années, après avoir coaché des milliers de personnes depuis 2006, et vraiment adapté à la séance. Donc, comme je peux faire avec les suivis hebdomadaires, tout ça. Et c'est pas juste un programme, comme je dis souvent. Mais c'est pas le secret, c'est pas le programme entre guillemets, même si à terme faut le personnaliser, c'est vraiment la méthodologie et là vous allez vraiment la retrouver donc dans SP Training que je vous invite donc à essayer gratuitement pendant un mois. Voilà Fabrice.
Bravo. Donc c'est chat SP avec Open Rudy.
Il y a une photo de moi mais on a mis une photo classique et franchement vous pouvez même regarder juste les captures si vous voulez pas l'installer, vous voulez pas l'essayer mais bon, ce serait dommage si vous faites de la muscu. Mais Pierre a bien bossé, c'était un peu long tout ça mais maintenant elle est là. On a plein de petites idées de mise à jour que j'espère régulières, mais là, on a déjà quelque chose de vraiment très, très, très poussé. Donc, que j'invite à essayer. Après, vous verrez ma gueule à chaque fois que vous faites une séance, quoi. Même si c'est en petit, voilà. Imaginez que je souris comme dans les podcasts et puis tout ira bien. Alors, Fabrice.
Okay.
Alors, Fabrice, moi, j'ai une question. Parce que tu faisais du rameur et du ski erg et il semblerait que tu aies pris des pecs avec ces deux exercices, est-ce que c'est vrai?
J'ai pris tellement de pecs. Non, je suis en fait, je suis style statue grecque. Tu sais la, tu connais les statues grecques parce que les statues grecques elles n'ont pas de pecs en fait, elles ont des épaules, un petit peu de bras et tout ça, mais elles n'ont pas de pecs. Et comme les premiers athlètes qui faisaient de la du culturisme au début des années 1900, ils n'avaient pas de pecs non plus parce qu'ils se basaient sur les statues grecques, puis ils faisaient pas trop de développé couché. Et les pecs c'est arrivé après. Donc quand ma femme elle me dit mais décidément t'as plus du tout de pecs, je lui dis bah oui je suis devenu statue grecque, c'est normal, hein, c'est volontaire. Alors oui, donc là maintenant c'est plusieurs mois que je fais donc du rameur, j'ai même débuté le ski là, et comme j'avais dit à un moment donné, j'ai même arrêté les pompes. Donc du coup maintenant mon physique ne doit plus que à mes antécédents et à la marche quotidienne que je fais. Bon, ça on s'en demandait pas des miracles, mais voilà, au rameur et au ski. Et donc je peux vous dire exactement ce qui se passe, Rudy. Alors
que se passe-t-il?
Que se passe-t-il? Là, chaque fois qu'on fait une activité comme ça, faut distinguer les muscles qui sont sollicités et les muscles qui vont vraiment être, avoir une grosse sollicitation musculaire. Parce que souvent sur Internet, vous avez plein d'activités, genre faire son café ou faire son ménage. Oui, ça sollicite un peu tous les muscles, mais de là à gagner du muscle ou aller travailler vraiment, c'est une autre histoire. Et donc au rameur, on dit souvent que ça sollicite 80% des muscles du corps. Alors je sais pas où ils ont été pêchés ce truc-là, si c'était dans une étude ou quoi. Mais la réalité, c'est qu'en fait, sur ces 80%, ben, il n'y en a pas tant de pourcents que ça qui vont vraiment être sollicités intensément au point qu'on va avoir une petite hypertrophie musculaire, en tout cas par rapport à un gars normal. Ce qu'on voit, c'est que les quads, oui, on peut choper un petit peu de quads avec le rameur, ça, il n'y a pas de doute. On peut choper un peu de fesses aussi avec le rameur, un petit peu de lombaire, un petit peu de trapèze moyen, mais pas de trapèze supérieur parce que le tirage est plutôt horizontal, donc c'est assez cohérent. Un petit peu d'arrière d'épaule. Et franchement, au niveau des bras, moi, il ne se passe à peu près strictement rien.
Oh, ben ça sert à rien de faire tout ça, alors. On ne prend pas de pec ni de bras.
Ouais, c'est ça. Ça fait pas les... On a une bonne posture, voilà. On a vraiment une bonne posture parce que c'est plutôt la chaîne postérieure qui est sollicitée plus les quadriceps. Mais c'est vrai que sinon, là, au niveau des bras et des pecs, en fait, ça fond. Ça ne cesse de... Genre, voilà, statue grecque. Vu que je fais plus de pompes ni rien pour les pecs, et ben en fait, comme ils travaillent trop peu, et ben il y en a plus. Voilà, les pecs ont disparu. Donc voilà. Mais voilà, il y a un petit peu de fesses et un petit peu de quadriceps. Alors après pour le ski, donc la machine skiable concept 2. Donc là j'ai fait une dizaine de séances. C'est un peu plus compliqué ce mouvement-là parce que il y a des gens qui le font de manière plutôt courte, puis il y a des gens qui le font de manière plutôt ample, et donc du coup les muscles mis en jeu sont pas tout à fait les mêmes. Et par ailleurs, il y en a qui mettent des résistances très élevées et d'autres qui mettent des résistances plus faibles. Mais grosso modo, chez moi en tout cas, ça fait les abdominaux et les dorsaux. En gros, voilà.
Bon. Et ça fait pas les triceps à force de...
Non. Ça fait pas les triceps parce qu'en réalité c'est exactement comme le rameur. La fin du mouvement c'est une petite extension de triceps qui accompagne tout l'élan que tu as mis au début, qui doit être le plus important possible. Et en fait le triceps travaille très peu, exactement comme au rameur. Les biceps travaillent très peu parce qu'en fait ils sont juste là pour accompagner la fin de l'élan. Ils tirent pas vraiment, tu vois. Si tu tires, en fait, c'est pas là. Toi, t'avais fait du 500 mètres, donc c'est complètement différent. Mais normalement, ils sont là pour accompagner, parce que si tu tires à chaque fois, en gros, tu gaspilles de l'énergie. Donc c'est un accompagnement, et c'est exactement pareil au ski. Les triceps, c'est un accompagnement, et du coup, ben, ils travaillent pas. Et donc voilà. Donc ce qui travaille, c'est chez moi les dorsaux, un tout petit peu le devant d'épaule, et puis les abdos. Et puis, il y en a qui vont avoir une amplitude de mouvement un peu plus importante et du coup, qui vont peut-être mettre en jeu de manière plus tonique d'autres muscles. Mais dans mon cas, ça le fait pas.
Et est-ce que tes pulsations continuent de baisser? Est-ce que tu continues à jouer un peu avec tout ça?
Alors, le truc des pulsations. Alors, sur le rameur, je regarde de moins en moins tous ces trucs-là.
Voilà, on voulait avoir des retours, l'amélioration de la condition physique d'un dieu grec, et en fait, on saura rien, quoi.
Non, mais si, mais parce qu'en fait, donc, je note tout assidûment sur mon training log sur le forum Superphysique. J'ai même viré tous les commentaires pour que ce soit plus clair, parce que sinon, c'est le grand bordel.
Ah, le dieu va tout virer!
Ouais. Et on voit bien une progression, là, il n'y a aucun doute. Surtout que maintenant, je fais du rameur, même sans sangle, l'essentiel du temps, donc c'est encore plus difficile, ça met encore plus en jeu le gainage.
Pourquoi tu fais sans sangle?
Eh bien, parce qu'en fait, si tu sais faire du rameur sans sangle, t'es sûr que ton mouvement de rameur est bon, à peu près. Tu vois.
Mais là, c'est bon. Depuis le temps, il est à peu près bon ton mouvement.
Ouais, mais je voulais bien être sûr, bien travailler le gainage, etc. Et en fait, ça se fait de faire du rameur à basse cadence, c'est-à-dire grosso modo de 18 à 26 ou 24 selon les gens. Tu le fais à basse cadence sans sangle. Comme ça, tu fais un mouvement, voilà, nickel. Et après, tu sangles tes pieds quand tu passes sur les cadences plus élevées. Voilà, il y en a qui travaillent comme ça. Et du coup, j'ai copié et j'en suis content de faire comme ça. Et effectivement, donc petit à petit, on voit bien une progression sur mon log où à cadence égale, eh ben je fais de plus en plus de mètres.
Oui, la FC.
Alors, la fréquence cardiaque, eh ben le problème, c'est que comme elle est souvent faussée à la salle, dès qu'il y a quelqu'un qui est dans mon périmètre ou des choses comme ça, j'ai perdu l'habitude de la regarder et de toute façon, je me suis rendu compte que c'était pas très utile au final parce que des fois, comme tu avais dit, elle monte un peu trop et puis sans que ça signifie quelque chose. Et puis, quand, par contre, des fois, je regardais ce qu'on appelle le split, c'est-à-dire mon temps aux 500 mètres, et puis je me suis rendu compte que ça m'encourageait parfois à tirer trop fort ou à l'inverse à pas être assez fort ou à avoir.
Comment tu gères ton effort alors?
Eh ben, au feeling, figure-toi. Si, je te jure, j'essaye de tirer quasiment le plus fort que je peux à chaque fois, en fait, mais pas non plus le plus fort que je peux parce que sinon je pourrais pas le répéter 100 fois de suite en ayant le geste le plus relâché possible. Et après, je regarde mon temps en mètres et je regarde combien j'ai fait de mètres. Et en fait, ça progresse de séance à séance. Et ce que je respecte par contre absolument, c'est la cadence. Où je mets une vidéo où je vois un mec faire la cadence en question et je me cale sur sa cadence. Je fais aussi ce qu'on appelle une double respiration. Où là, je commence à maîtriser le truc. Où en gros, tu respires deux fois sur un seul mouvement. Ça aide aussi à la cadence. Et puis voilà. Et en fait, pour le moment, c'est comme ça. Et quand je retenterai un 2000 mètres, pas tout de suite, et ben là, on verra, je passerai à l'étape supérieure ou de viser le split. Mais je pense qu'au début, là, je faisais trop en même temps. Il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est la cadence et de tirer bien fort pendant longtemps. Et c'est à peu près ce qui se passe. Et je pense que je suis pas mal, Rudy. Et au passage, donc il y a beaucoup de gens qui se mettent à côté de moi quand je fais le rameur à la salle et en fait, ils comprennent pas ce truc de résistance. Alors si jamais vous avez un rameur et que vous n'avez pas lu le mode d'emploi et que vous avez un rameur où on règle la résistance de 1 à 10, de type concept 2 ou technologique ou quoi que ce soit, la bonne résistance, c'est entre 3 et 5 en fait. Ça sert à rien de mettre 10. C'est vous qui faites la résistance en étant explosif. C'est exactement comme avec la muscu. Et si vous mettez une résistance 10, et ben en gros, à moins d'être super balèze comme Rudy, on n'arrive pas à être explosif, on a un risque de blessure et en fait, personne met 10. Hein. Même les meilleurs du monde, ils mettent un truc entre 3 et 5, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, pour le ski erg, là, c'est un peu différent parce que il y a des mecs qui sont des monstres de masse et qui, eux, mettent une résistance 10 et puis qui arrivent à gérer avec une résistance 10 alors que Concept 2 recommande une résistance entre 1 et 3, donc vraiment très en dessous. Mais là, il y en a qui mettent 10. Mais au rameur, personne met 10, à part pour quand ils veulent travailler des fois la, je sais pas comment dire, des séances force, là où ils vont s'amuser à faire 10 ou 20 coups très forts. Mais la quasi-totalité du temps, ils mettent entre 3 et 5, voire même des fois moins que 3 quand c'est des séances longues. Donc, ne mettez pas 10, ça sert à rien. C'est l'intention qui compte, c'est le fait d'être explosif, de tirer fort, le plus fort possible à chaque fois.
Il y a trop de sensations et de feeling pour moi. Moi, j'aime bien les chiffres.
Ouais. Bah après, non, mais le chiffre, tu l'as. Tu peux regarder le split. Mais moi, j'essaie de m'en détacher un peu là pour bien maîtriser le mouvement, en fait, si tu veux. Pour.
Mais quand est-ce que tu l'auras maîtrisé?
Bah, je pense que je dois en être pas mal. Et vu que maintenant j'ai ajouté la respiration, donc vu que j'arrive à faire 100 sangles plus la respiration, ça devrait le faire. Mais en fait, tout est extrêmement bien pensé, mon cher Rudy.
Je vais te dire,
mais je vais pas non plus trop saouler les gens parce que ceux qui ont pas de rameur,
on veut connaître tes objectifs, on veut savoir ce que tu
veux
faire.
Mais en fait, c'est très simple. Il y a, grosso modo, il y a une séance où je fais de la cadence basse à 18 coups par minute. Voilà. Donc, ça peut être 20, ça pourrait être 20 ou 22, mais bon, je respecte strictement, c'est 18. Ensuite, il y a une autre séance où j'avais commencé à 18. Et grosso modo, chaque semaine, j'augmente. 18, après 20, après 22, après 24. Je vais aller comme ça jusqu'à 30 ou 32. Donc, ça va prendre un certain nombre de semaines, vu que là, j'en suis à 24. Je vais tenter un 2000 mètres. Et ensuite, je repartirai sur un vrai programme nickel en tenant compte des splits et tout ça. Mais là, je m'estime encore dans la phase
Mais là, tu fais que deux séances. Que deux séances par semaine?
Eh ben, en fait, ça fait deux ou trois. Ça dépend de la semaine. C'est à cause du ski erg. Parce que j'en ai rajouté deux de ski erg. Plus les jours de repos, ben, moralité, du coup, ça a réduit sur le rameur. Et c'est un test que je fais aussi, Rudy.
Ah ouais, t'entraînes plus du tout, là.
Bah, j'en fais moins sur le rameur, mais ça continue à progresser. Bah, parce que c'est le ski erg. Comme je teste le ski erg avant de rentrer chez moi pour savoir si je vais m'en acheter un, eh ben, faut au moins que je fasse deux fois par semaine pour savoir si j'accroche, tu vois.
Je pense moralité, que tous les auditeurs seront de mon avis, tu vas pas acheter de ski erg.
Je sais pas, c'est pas mal, en fait, ce truc-là. Parce que je me suis dit, effectivement, comment ça se fait qu'il y a autant de types qui font du rameur, qui font du ski erg, alors qu'à la base, le mouvement est quand même assez chiant. Et normalement, c'était pour les skieurs quand il n'y avait pas de neige l'hiver. C'est comme ça que ça avait été inventé par Concept 2. Et en fait, l'avantage du truc de ski, là, c'est que grosso modo, c'est l'inverse du rameur. C'est à peu près le mouvement antagoniste. Et donc, du coup, ça fait que si tu enchaînes les mouvements un jour sur deux, par exemple, eh ben en fait, tu vois bien, ça fait comme en muscu, si un coup tu fais le dos et le lendemain tu fais les pecs, tu vois. Et c'est le même principe. Et du coup, ça fait que tu peux t'entraîner fréquemment, mais en ayant des pauses au niveau de tes muscles et de tes articulations. Donc c'est pour ça que j'essaye d'investir ce champ-là et de voir si ça me plaît, quoi.
Mais est-ce que tu vas pas acheter déjà un vrai rameur?
Oui, bah après ça, j'achèterai aussi un rameur. C'est pas le prix que ça coûte. Voilà, j'aurai le rameur.
Le concept 2 rameur.
Et le concept 2 ski erg. C'est ça l'idée.
Ah bah, dis donc,
l'idée, c'est de tourner.
Est-ce qu'on pourra venir s'entraîner moyennant une cotisation?
Mais j'y ai pensé, ça. J'ai déjà pensé chez moi. De la même façon, je me suis dit, tiens, Rudy fait la villa SP. Pourquoi moi, je ferais pas aussi un truc chez moi où les gens viennent et puis font du rameur ou du ski et en même temps, ils profitent de l'environnement de chez moi et de ma compagnie, tu vois?
Ben voilà, la Villa Superphysique 2, ça s'appellera, parce que moi c'est numéro 1, et la Villa Superphysique 2. Voilà.
Très bien. Mais donc je teste, et alors il faut savoir qu'à la salle, il y a quasiment personne n'arrive à faire du rameur correctement, et c'est aussi pour ça, du coup, je me suis lancé dans ce truc-là. Je me suis dit, la plupart des gens, ils font n'importe quoi. Ça se trouve, moi au début, je faisais n'importe quoi. Donc on va déjà apprendre à faire les choses bien. Et c'est pour ça que je passe du temps sur la technique. Et là, c'est pareil pour le ski. Où je passe beaucoup de temps pour essayer d'apprendre le mouvement, comprendre comment faut faire. C'est pas évident parce que sur juste avec YouTube, c'est pas simple. Et là, pour le coup, c'est pareil. Ceux qui font du ski à la salle, ils sont très rares, mais il y en a. Et là, ils font vraiment n'importe quoi. Alors déjà, au rameur, ils font souvent n'importe quoi. Mais alors au ski, c'est un désastre. Mais du coup, voilà, ça me montre que il faut travailler et faire les choses bien. Et voilà. Et en fait, pour ceux qui se souviennent, à un moment donné, j'alternais le rameur et le vélo. Parce qu'il y en a aussi qui font ça. Mais sauf que du coup, ça tapait deux fois dans les quadriceps. Et si en plus, je rajoutais de la rando par là-dedans, j'étais encore sur les quadriceps. Et du coup, trois fois sur les genoux. Les genoux en rando, ça nique les genoux. Les genoux avec le rameur, ça tire sur les genoux. Et puis, le vélo, voilà, j'ai encore une sollicitation des genoux. Alors que là, avec le ski erg, tu vois, c'est magique. J'ai un autre mouvement. Donc, voilà pourquoi je passe du temps sur le truc. Et effectivement, ma fréquence cardiaque monte pas mal sur ce mouvement-là. Mais c'est parce qu'en fait, je sais pas encore bien gérer la cadence et tout ça. Parce que sinon, c'est exactement comme le rameur. Il n'y a pas de raison que quand tu fais une cadence suffisamment basse, ton cœur, il monte trop, en fait. Tu vois, ça doit être adapté.
Donc, sauf si tu mets de la force à chaque coup, t'accélères comme un malade, musculairement, ça peut te faire monter un peu.
Oui, voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe avec le rameur. C'est que tu te souviens, au tout début, j'avais dit, mais je comprends pas que les types qui font de l'aviron, là, à 20 coups minutes, ils arrivent à monter la fréquence cardiaque à je sais plus combien, 180, là. Tu m'avais montré des PDF où c'était comme ça. Puis tu m'avais dit, si, parce qu'ils mettent beaucoup d'appui. Et c'est vrai que du coup, maintenant, même avec une faible cadence, j'arrive à faire monter le cœur, mais c'est parce que je tire le plus fort possible à chaque fois. Et effectivement, ça fait monter, mais pas autant que ceux qui font de l'aviron, mais ça monte un petit peu. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être la clé du succès, Rudy. C'est d'être capable de tirer très fort à cadence basse et après d'être capable de garder cette force de tirage en augmentant la cadence. Et c'est comme ça que tu fais un bon temps. Mais si à la base, t'as pas un tirage fort, ça sert à rien d'aller vite parce que t'auras jamais un bon temps. C'est ça le truc. Voilà, Rudy. Mais donc, en tout cas, musculairement, vu qu'on est sur un podcast de muscu, pour ceux qui voulaient savoir, hein, parce qu'on dit souvent...
Un pet de muscle.
Ouais, ça fait, par rapport à un type lambda, ça fait. Mais effectivement, ça fait même pas ce que fait un débutant en muscu. Hein. Je pense que tu fais 10 à 70 au rowing yachts, t'as plus de dos qu'en faisant du rameur, en tout cas tel que je le fais là. Après, effectivement, ceux qui font 6 minutes au 2000 mètres, ils ont peut-être un bon dos, parce qu'ils doivent tirer très, très fort. Mais en tout cas, pour le moment, chez moi, ça le fait pas. Et encore, j'ai les antécédents. Si j'avais pas d'antécédents, ce serait pas, peut-être pas beau à voir. Voilà. Et j'ai aussi remarqué un truc, Rudy. C'est que ceux qui se mettent au rameur en ayant un passif d'aviron, il peut y avoir des types qui sont secs. Mais ceux qui se mettent au rameur sans avoir un passif d'aviron, j'ai remarqué qu'ils pouvaient être un peu dodus. Parce que comme le rameur, il porte ton poids, puis que t'es avantagé en étant
gros,
y a pas mal de gros qui font du rameur. Hein. Quand je regarde un peu les photos sur Internet ou les forums et que je vois le taille-poids, en fait, c'est un peu les dodus. Hein. Je m'attendais à avoir des types minces et puis athlétiques, mais en fait, c'est ceux qui viennent de l'aviron qui sont minces et athlétiques. Sinon, ils sont un peu dodus. Hein.
C'est une compète, à part sur le 2000, là, mais sur le cours, là, je me souviens, il fallait être lourd. Hein. Moi, quand j'avais fait le 500, j'essayais d'être gros... Parce que ça aidait, hein. Je voyais bien que tu te penches un peu en arrière, c'était mieux. Hein.
Donc bon, donc le bilan, si je fais le bilan de toutes mes activités, la natation, le vélo, le rameur avec mon petit niveau et le ski, je dirais que l'activité qui muscle le plus, ce serait la natation, en étant honnête, et le vélo pour les cuisses.
Bah voilà, plus c'est localisé, plus ça muscle. C'est
vraiment... Ouais, le vélo avec un braquet assez élevé, ça fait quand même bien les cuisses, ça y a pas de doute. Et franchement, la natation, je trouvais que ça musclait plus que le rameur. Mais bon, peut-être que j'ai pas encore le bon niveau au rameur, mais voilà, je suis pas très très impressionné. Hein, mais comme j'avais dit, hein, en fait, quand on a déjà fait de la muscu, on se rend plus compte. Mais en fait, la plupart des activités, ça muscle zéro, quoi. Et donc, bah finalement, que ça muscle un petit peu, c'est déjà peut-être un peu pas mal.
Bon ouais, vive la muscu. On attend ton retour sous les barres, Fabrice.
Ouais, non, bah attends, tu parles, j'ai pas fait de pompe depuis 2 mois, c'est pas pour refaire de la muscu.
Quoi? C'est à cause du véganisme tout ça?
Ah oui, alors je reviens là-dessus aussi. Des fois, il y en a qui ils laissent des commentaires sur YouTube, ils me disent « Ah, tous les problèmes de Fabrice, ils sont dus au véganisme » ou des trucs
exactement
comme ça.
Exactement, mort au véganisme.
C'est ça. Et en fait, je pense que à force d'avoir été transparent et de montrer que j'étais un peu en quête du zéro douleur, et de dire « Ah bah là, tu vois, j'ai un petit truc au cou, ça m'ennuie, là j'ai un petit truc au mollet, ça m'ennuie. » En fait, il y a des gens qui ont pensé que j'avais beaucoup de problèmes, hein, tu vois. Mais en fait, j'ai pas vraiment de problème. Donc, je marche…
T'as une vie compliquée.
Voilà, non, en fait, je marche, je sais pas, 10, 12, 15 kilomètres par jour. Hier, c'était 20 kilomètres. Donc, tous les jours, je marche, on va dire, beaucoup plus qu'un type normal. Et puis, je vais encore à la salle 5 fois par semaine pour faire voilà mon rameur ou mon ski. Je fais mes étirements et je suis à nouveau beaucoup plus souple que la moyenne. Voilà, j'ai pas un pet de gras, etc. Donc, globalement, non, ça va, tout va bien. Je suis très en forme, j'ai récupéré mon dos et tout ça. Mais c'est vrai que comme j'ai commencé ces nouvelles activités, là, le rameur et le ski, et que le rameur, j'en ai fait trop vite, trop tôt, eh ben, j'ai eu des petites douleurs par-ci, par-là, plutôt musculaires, et ça m'ennuyait, parce que je voulais pas faire une activité qui me faisait des douleurs. Mais là, ça va, je gère mieux, et les contractures sont plus ou moins parties, il me reste un petit truc au mollet de temps en temps, mais globalement, ça va. Mais de toute façon, c'était des problèmes musculaires, c'était pas articulaire, donc c'était pas très, très grave. Comme quelqu'un qui débuterait la muscu, qui serait enthousiaste de progresser, puis qui choisirait le programme de Arnold Schwarzenegger, en double split, en pensant qu'il va progresser plus vite, puis au final, il a un peu mal partout. Et ben en fait, c'est un peu ça qui s'est passé, parce que j'avais des petites douleurs. Voilà, mais en gros, c'était ça. En gros, j'étais trop enthousiaste, mais j'ai pris un programme qui n'était pas adapté à mon niveau, en pensant que juste à adapter la vitesse, ça suffirait. Mais en fait, non, il fallait adapter le volume d'entraînement, parce que mes muscles, ils n'étaient pas prêts, en fait, tout simplement. Mais surtout que je savais pas bien tirer. Là, j'avais expliqué que je me relâchais pas. Mais là, ça va mieux. Et donc, du coup, cette histoire de véganisme, si vous lisez plein de choses sur comment vivre vieux et tout ça, la plupart du temps, on vous dit il faut manger beaucoup, 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 beaucoup de légumes. C'est toujours des légumes. Et on dit toujours il faut végétaliser son alimentation, végétaliser, on mange trop de produits transformés, il faut Et quand on dit qu'on mange trop de produits transformés, ça dit pas qu'il faut remplacer tous les produits transformés par du riz et des pâtes. C'est non, c'est qu'il faut prendre des légumes, des légumineuses, des oléagineux, des trucs comme ça. Et moi, en tant que vegan, ces aliments-là, j'en mange des tonnes. J'en ai plein. Et en fait, c'est pas du tout le véganisme qui fait que j'ai des contractures au cou ou quoi que ce soit. Quand j'avais c'est le contraire, c'est le véganisme bien fait, évidemment bien fait, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Il y a des carences quand on est végane, c'est pas naturel d'être végane. Encore une fois, végétarien c'est plus naturel. Mais pour la santé, on n'est pas végane pour la santé. On est végane parce que on considère.
On est religieux. On est raélien.
Que grâce aux outils modernes que sont la vitamine B12 et tout ça, on n'a plus besoin de manger les animaux. Et que, en plus, en se supplémentant en vitamine B12 et en mangeant des végétaux, on est bien, on est en bonne santé, etc. Mais effectivement, si tu te supplémentes pas puis que t'es vegan, bah, ça va pas, hein. Parce que c'est pas fait pour, on n'est pas fait pour. Mais maintenant, on peut, grâce aux vitamines. Bref. Et, voilà. Ce qui s'était passé quand j'avais voulu tenter la plongée, que j'étais en recherche de mon activité favorite. Après la plongée, là, j'avais eu des gros problèmes d'équilibre. Donc, c'était pas le véganisme, c'était probablement la plongée. Et en fait, j'étais allé à l'hosto deux fois quand même. Et j'ai eu à chaque fois une batterie de tests qui a été fait pour le cas où je m'étais pas drogué, empoisonné ou que sais-je. Et on a vraiment tout testé. C'est pas comme vous allez chez le médecin, vous dites, je perds mes cheveux, il vous dit, ah, bah, peut-être vous manquez de fer, on va vous tester le fer. Parce que là, non, ils m'ont tout testé ce qui était possible. Hein. J'avais 3-4 feuilles quand je suis sorti. Et en fait, tout était parfait. Donc, du coup, ça m'a montré que, en tout cas, ce qui était testable, c'était parfait et que j'avais pas de carence par rapport à ce qui était testé.
Oui, mais ça va arriver, c'est trop court terme. C'est pas...
Ouais. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est court terme. Au début, les véganes, ça va bien. Et au fur et à mesure, ils ont des espèces de carences qui s'installent. Et puis, au bout de 5 ou 10 ans, ça y est, ils tombent en morceaux. Donc, moi, je dois en être à 6 années. Et franchement, pour le moment, ça va. Puis ma femme aussi. Mais encore une fois, il faut pas faire n'importe quoi, quoi. C'est faut se supplémenter, faut faire gaffe à ce qu'on mange, sinon on peut manquer de calcium, etc. En fait, quand on est végane et qu'on fait les choses intelligemment, on est un peu obligé de faire attention, parce que sinon, effectivement, si je mange pas assez de légumes verts ou du tofu ou assez d'oléagineux ou une eau un petit peu minéralisée, ben, j'ai un risque d'être carencé en calcium. Donc, ben, voilà, ça oblige à faire certains trucs un peu différents. Ou, comme je mange pas de poisson, si je mange pas des petites algues de temps en temps, ben, il y a un risque, apparemment, d'être carencé en iode. Donc, du coup, ben, ça oblige à faire un peu attention.
Ça fait bien chier, cette alimentation, là.
Et voilà. Et quand on fait les choses bien, normalement, ça va plutôt bien. Et la preuve, c'est que je vais plutôt bien. Mais effectivement, j'étais en quête de n'avoir zéro douleur. Et c'était pour ça que voilà, j'étais sur cette quête-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait tous ces massages. Et je continue. Et donc, les massages, c'est pas mal. C'est dommage que je puisse pas en faire plus. Je comprends que les athlètes professionnels, ils aideront à leur massage à chaque fois. Vu que ça aide la récupération, c'est vrai. Parce qu'il y a un coup, j'avais fait une séance assez intense pour moi le matin. Et déjà l'après-midi, je commençais à avoir des... Je sais pas comment appeler ça. On va dire des espèces de courbatures. Et en fait, je suis allé faire le massage le soir même, exprès pour tester. Et le lendemain, bah, ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc, c'est vraiment pas mal ce massage. Alors après, Rudy se marre avec son histoire de finicien et tout. Mais comme c'est un massage sportif, c'est pas toujours très agréable. En fait, des fois, ça me fait un mal de chien, justement, quand elle passe dans les zones où il reste des nœuds là, sur les mollets. Et sur l'ischio, et des fois ça est même super mal, et même j'ai dit à la dame, j'ai dit peut-être que le dernier massage qu'on fera, je choisirai le massage relaxant, parce que payer 50 balles pour avoir mal à chaque fois, je me fais un peu
le mec avec des bleus.
Ah mais c'est vrai, il y a eu une fois où j'avais des bleus, en fait, tellement ça avait appuyé fort. Mais bon, j'ai quand même l'impression que les nœuds diminuent au fur et à mesure. Après, je pense que pour certains muscles, pour les ischios, si j'avais le rouleau bleu à picot, je pense que j'arriverais à les enlever petit à petit en faisant la méthode du pauvre. Hein. C'est tu fais tes petits picots tous les jours et puis petit à petit, on ne passe.
Pour les mollets, c'est un peu plus chiant.
C'est ça, la méthode du pauvre. Pour les mollets, c'est un peu plus chiant. Je vois pas trop comment faire. Parce que
tu peux rouler avec le rouleau aussi.
Ouais, mais pour mettre autant de tension qu'elle fait et tout ça, ça doit pas être simple. Mais bon. Effectivement, ça vaut mieux que rien et avec le rouleau. Mais cela dit, là, tu vois, je fais une fois par semaine, c'est pas assez en fait. Faudrait que je complète par du rouleau. Mais là, je pense qu'il faudrait.
Fais-toi deux massages par semaine, Fabrice, t'as qu'une seule.
Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais là, ça fait 100 balles de massage par semaine, là, quand même, ça fait un peu cher. Mais bon, c'est vachement bien. Et ça se trouve, quand je rentrerai chez moi, si jamais je trouve quelqu'un à peu près au même tarif qui fait des massages sportifs, j'irai. Mais c'est pas du tout, parce que j'ai fait une petite recherche sur Internet.
Ah ouais,
tous les masseurs, bah ouais, parce que là, c'est massage sportif qu'elle fait, la fille. Elle fait relaxant aussi, mais elle fait sportif. La plupart, ils font pas sportif, hein, parce que c'est chiant. Quand elle appuie avec ses pouces et tout ça, je dis, t'as mal à la journée, t'as mal à la fin, au pouce. Elle me dit, bah ouais, des fois, ça me fait un peu mal. Bah ouais. Appuyer une heure. Bah, avec ses pouces
compte,
pour
elle
les
te
mate,
elle est en train de se détruire à cause de toi.
Bah ouais, non, c'est vrai que c'est. Bah d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui nous avait envoyé un message, on n'en avait pas parlé. Quelqu'un qui disait qu'il était allé chez un vieux kiné et le vieux kiné le massait. Et donc, si je comprends bien ce qu'il avait dit, lui, il avait dit au vieux kiné, mais pourquoi les jeunes kinés en France ne massent pas? Et donc, nous. Moi et Rudy, on pensait que c'était aussi parce que quand tu masses, tu peux t'occuper que d'une personne en même temps. Et comme les tarifs sont trop peu élevés, ils sont obligés d'avoir plein de personnes en même temps pour rentabiliser à peu près leur cabinet et leurs heures d'études, leur diplôme. Et on pensait que c'était pour ça qu'ils massaient pas. Mais le vieux masseur disait que masser, à la longue, ça niquait les mains, ça finissait par faire mal aux mains. Et que ça se trouve, les jeunes kinés masseurs, les jeunes kinés français savent qu'on s'abîme les mains en massant et ça devient une motivation supplémentaire pour ne pas masser. Voilà ce qu'on avait reçu en mail. Vrai, pas vrai. Mais donc voilà. En tout cas, les massages, c'est bien, Rudy.
j'en doute pas. Moi, j'ai toujours su que ça faisait du bien. Mais c'est vrai que en France, en tout cas, je n'ai jamais trouvé, vis-à-vis de mon expérience, quelqu'un qui massait vraiment comme je voulais, quoi. Donc à chaque fois, c'est des petits massages qui servent à rien. Parce que moi, ça m'intéresse pas. Je préfère me masser tout seul avec la méthode du pauvre, avec nos balles super physiques qu'on a fait, avec nos rouleaux super physiques qu'on avait fait, ou avec un pistolet de massage, qui est un peu la méthode de l'entre-deux, de la classe moyenne, qui est moins efficace quand même que le rouleau et la balle, parce que tu peux moins appuyer, et tu peux faire le taf si on n'a pas beaucoup de nœuds, quoi.
Ouais, ouais. Alors, si jamais il y en a qui veulent demander à leur femme de se faire masser, ou un massage sportif, ou qui veulent masser leur femme sportive, donc ce que fait ma masseuse, l'essentiel du temps.
Si vous avez une femme sportive, vous nous demandez, on peut se déplacer.
En gros, elle colle ses deux pouces, par exemple, et elle va le mettre sur le bas du mollet. Et ensuite, elle va appuyer très fort en remontant ses deux pouces jusqu'au haut du mollet. Elle va répéter ça plein de fois de suite. Voilà, c'est une des techniques de massage qu'elle fait. Elle fait pas que ça, mais c'en est une. Et elle fait exactement pareil pour les ischios. Donc, elle va être sur le bas de l'ischio. Elle va prendre ses deux pouces et après, elle appuie, puis elle remonte. En gros, et c'est ça qui fait le plus mal quand on a un endroit où il y a des nœuds.
Toi, la formation super massage, Fabrice.
Formation super massage. T'as raison, je vais utiliser le compte épargne formation pour demander à ma femme de la faire, cette formation de massage. Et voilà. Donc moi, j'ai un peu fait le tour pour mes choses. Rudy.
Oui, j'ai pris plein de sujets sur le forum, comme d'habitude. Moi, je suis un adepte de répondre aux questions qui ont été posées sur les forums.
Ah ouais.
Et on a pas mal de questions dernièrement. Donc, j'ai encore commencé par une qui...
Qui est celui qui cherchait quel sport de combat pratiquer.
on peut commencer.
Elle était gratinée, celle-là.
Ah, si, on peut commencer par celle-là. Je ne sais plus dans quelle rubrique elle était. Je ne l'avais pas pris parce que j'ai vu que tout le monde s'énervait dessus. Donc,
c'est préparation physique qu'elle est dans la rubrique.
Ah bon, je vais la chercher tout de suite. Alors, sachez que maintenant, j'ai la fibre. Donc, je peux faire de l'Internet en même temps quand je fais le podcast, c'est incroyable. Alors, il est où ce type? Quel sport de combat? Ah oui, je l'ai. Alors, je vois qu'elle te fait plaisir. Alors, c'est une question de DZ Columbia, auquel on a déjà pas mal répondu dans différents podcasts, qui est assez actif sur les forums Superphysique. Donc, je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les utiliser. www.superphysique.org puis forum. Et bref. Bonjour. Voilà, cela fait 2-3 ans que les sports de combat me tentent de plus en plus. Et j'aimerais commencer un sport de combat. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui pratiquent ici, car j'aurais quelques questions. J'aimerais un sport de combat dans lequel je suis naturellement doué morphologiquement. Je suis très large d'épaules et j'ai une taille moyenne. Je suis plutôt longiligne, 1,02 m de jambes et 80 cm de haut du corps. Ça me paraît pas si longiligne que ça, dit comme ça, mais bon, bref. Si vous avez des conseils à me donner ou avis à me donner, ce serait avec plaisir, je n'y connais pas grand-chose. Fabrice, est-ce que DZ Columbia fantasme le fait de devenir un combattant de MMA professionnel.
Ouais, en fait, cette question-là, elle a un peu agacé tout le monde. Mais parce que, je sais pas, c'est comme si moi, je disais, alors Rudy, ça fait 2 ans que j'hésite à faire, je sais pas quelle activité, du tennis. Est-ce que tu penses que je suis fait pour le tennis? J'hésite à m'y mettre, etc. Donc oui, déjà, je trouvais que c'était mal parti quand ça fait 2 ans qu'on hésite à faire une activité et qu'on n'a même pas fait le premier pas pour faire tester cette activité. À mon avis, voilà, ça relève plus du fantasme ou de la bonne idée que vraiment, on doit pas être très motivé pour faire ça. Mais en plus, là, ce qui était drôle, c'était que ça concernait les sports de combat. Effectivement, je pense qu'avec le MMA, là, qu'elle vend en poupe, c'est comme ça en France, si vous avez remarqué, c'est souvent quand il y a des bons athlètes français que le sport en question, elle vend en poupe. Alors, à la fin des années 90, c'était l'époque de l'athlé, ce qui est Marie-Josée Pérec et tout ça. C'était pas mal l'athlé. Tu me diras si t'es d'accord avec moi.
Mais j'en ai fait justement. Donc.
Bah tiens, voilà, il était fan de Marie-Josée Pérec.
Non, de Michael Johnson, moi c'était. Hein.
Ou Ben Johnson. Et mais bon, c'est pas des athlètes français, c'est ça. Mais Marie-Jo, elle était. Ensuite, il y a eu la période à un moment donné, c'était la natation, ce qui est Laure Manaudou. Et là, tout le monde voulait faire de la natation. Et là, j'ai l'impression qu'avec le MMA et la tripotée d'athlètes français qui commencent à bien performer en UFC et que ça remonte médiatiquement, on a l'impression que ça y est, c'est les sports de combat qui sont au devant de la scène. Donc, les sports de combat, il y a les arts martiaux de manière générale qui étaient populaires à l'époque de Van Damme, Bruce Lee et tout, mais je suis pas sûr que ce soit encore populaire, ces trucs-là, où on avait le judo, le karaté et toute la clique, le Viet Vo Dao, le taekwondo, etc. Et là, normalement, il n'y a pas trop de contacts, donc ça encore, ça va à peu près, on peut y aller la fleur au fusil.
Oui, mais moi, je veux défoncer les autres, moi, je veux faire une carrière. Je sais voilà. Pas où je suis doué pour gagner.
C'est ça. Mais alors après, il y en a qui disent « Ah ben, j'hésite à faire de la boxe anglaise ou j'hésite à faire de la boxe américaine ou de la boxe thaï, tout ça. » Mais voilà, dans lequel vous pensez que je serais mieux et tout. Et en fait, je pense que les gens, ils ont oublié que dans ces trucs-là, tu te prends des coups dans la gueule, en fait. C'est pas la rigolade. Et à mon avis, ils ont oublié ce truc-là. C'est pas que taper, hein. C'est tu t'en prends aussi. Et même taper, c'est un peu particulier. Et c'est ce que j'ai répondu sur le forum. Comme moi, j'ai fait beaucoup de karaté quand j'étais jeune, grand fan de Jean-Claude Van Damme, tout le tralala et tout. Et au karaté, on retenait les coups. Donc, du coup, on n'avait pas un vrai test de sa virilité. Et en plus, si je puis dire. Et en plus, des fois, bah, l'autre, il retenait pas bien son coup et tu te prenais le coup et t'étais pas content. Et toi, tu retenais super bien ton coup et lui, tu avais pas fait mal. Alors que toi, tu t'étais fait mal. Et à la fin, t'étais tout énervé. Puis tu dis, bah, puisque c'est ça, moi, je vais faire de la boxe américaine et aller tous vous faire foutre avec votre karaté de fifi. Et donc, je suis allé faire de la boxe américaine. Donc, de son nom, je crois que le nom américain,
c'est
plus, ouais, non, c'est encore différent, je crois, je sais plus. C'était full contact. Je crois que l'équivalent exactement en termes de terme, c'est full contact. Donc, je suis allé. Et évidemment, comme j'avais mon passif karaté, tout de suite, tout le monde me regardait parce que j'étais souple, je faisais des high kicks, etc. J'avais la classe. Voilà. Et en fait, donc, évidemment, à l'entraînement, on a un petit casque. Et je crois même que dans les combats amateurs, on a des casques. Je crois que c'est les pros ou ceux qui ont un meilleur niveau qui n'ont pas le casque sur la tête. Et voilà. Mais il n'en demeure pas moins qu'en fait, je me suis pris des coups dans la tronche. Et en fait, se prendre des coups dans la tronche, même avec le casque, c'est pas agréable du tout, figurez-vous. C'est pas fun. On n'est pas content de se prendre des coups. Et puis même après, je trouvais que j'étais pas très bien, en fait. Et pourtant, je n'ai pas mis KO ni rien du tout, mais je me sentais pas super en forme après avoir reçu des coups. Et moi-même, j'en donnais aussi. Et à un moment donné, j'ai frappé un type et je lui avais pété un truc du nez. Il arrêtait pas de saigner. Et le type, il était rentré chez lui pour l'anecdote, si je l'ai pas déjà raconté en podcast, parce qu'elle est pas mal, cette anecdote-là. Donc le type, il est rentré chez lui. C'était un jeune, comme moi. Et en fait, il continuait à pisser le sang du nez. Ça s'arrêtait pas. Donc, il est allé à l'hosto aux urgences. Et en fait, aux urgences, qui l'a accueilli? Ma mère, qui était infirmière aux urgences. Et puis, qui lui a dit, comment vous êtes fait ça? Hop, le type, il a dit, je fais de la boxe américaine. J'ai pris un mauvais coup sur le nez et tout ça. Ma mère de dire, c'est drôle. Mon fils aussi fait de la boxe américaine. Il s'appelle Fabrice, vous le connaissez. Et l'autre de dire, oui, c'est lui qui m'a fait ça. Et donc, voilà. Le monde était petit, n'est-ce pas? Vu qu'il était finalement allé se faire soigner par ma mère pour son truc. Mais bon, toujours est-il que, cet épisode-là, moi, j'en étais pas particulièrement content, tu vois, parce que j'ai pas envie de m'entraîner, de faire un combat d'entraînement avec un type et puis du péter le nez. Enfin,
pense qu'il n'était pas cassé son nez, mais tu vois, mais qui finissent aux urgences. C'est pas une activité nécessairement qu'on a envie de faire quelque chose où tu envoies les gens aux urgences. Et moi-même, me prendre des coups, c'était pas très fun. Et donc, moi qui pensais être le summum de la vérité, de la virilité à l'époque, de mes 17 ans et d'avoir regardé 2000 fois Bloodsport, eh ben, je suis rentré la queue basse et puis j'ai dit non, la boxe américaine, c'est pas pour moi et stop. Et je pense qu'il y en a qui ont oublié que voilà, la boxe, c'est ça, tu te prends des coups. Et si en boxe anglaise et dans plein d'autres boxes, souvent quand même, ceux qu'on voit qui performent puis qui montent, dont on entend parler en tant que pro ou des trucs comme ça, c'est quand même souvent des types qui viennent des bas-fonds, hein, c'est pas des bourgeois. Ben c'est parce qu'il faut avoir la faut avoir envie de se faire fracasser et la volonté pour quoi, parce que sinon naturellement, c'est quand même un petit peu spécial. C'est pas comme dans les films en fait. C'est ça, et je pense qu'on oublie, et à mon avis le type s'il pose la question sur le forum, c'est qu'il voilà, il se rend pas du tout compte de comme c'est. Donc ça, c'était pour ça. Et après, effectivement, il posait aussi la question, il disait quel est le truc adapté à ma morphologie. Et comme quelqu'un a répondu très justement sur le forum, cette histoire de faire une activité qui est adaptée à sa morphologie, ça, l'idée déjà, c'est de prendre du plaisir, entre guillemets, à l'activité. Si t'as pas envie d'être... si t'as pas envie d'être champion, c'est pas très très grave si c'est pas adapté.
Il a pas été champion, il a déjà 23, 24, 25 voilà, ans, c'est terminé.
Donc bon... qu'il aille tester un cours de karaté. Alors en général, en plus, dans les associations, quand on veut tester, c'est exclusivement au mois de septembre. Une fois que t'as loupé le mois de septembre, octobre, bah tu peux plus t'inscrire. Mais bon, il peut quand même essayer. Peut-être qu'ils l'accepteront. Ouais, il va tester un truc de karaté ou de taekwondo et puis il verra comme ça va se passer.
Non, mais si veut, on peut lui mettre un pain dans la gueule gratos. Hein. Et puis il verra s'il aime bien.
Non mais tu rigoles, mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de banalisation de la boxe et tout, parce qu'à un moment donné en fitness, tu sais, ils avaient inventé des trucs, il y avait body combat où tu faisais des cours collectifs sûr. Où tu tapais dans le vide. Là où je suis en Espagne, il y a des salles avec tous des sacs et puis en gros, ils font des espèces de sessions, on peut appeler ça cardio box, où ils vont t'appuyer dans le sac, après ils font des burpees et tout ça, tu vois. Et donc du coup tu as le mob box dedans, ça fait viril et tout, mais bon, ça a rien à voir avec la boxe, moi je te le dis.
Ils ont un tweet Everlast, enfin.
Ouais, oh. C'est ça. Mais c'est pas ça. Bref, donc c'était pour la question. À mon avis, je suis sûr que dans 2 mois, il a toujours pas fait sa session test de sport.
Oui,
de
combat. Il l'aura peut-être fait, mais il aura pas.
On verra quoi.
Ah, mais c'est vrai que le raisonnement est à l'envers.
Ouais, c'est à l'envers en fait.
C'est ça qui est très très surprenant, c'est que je sais pas. Je me suis jamais dit. Quand je prends mon exemple du kayak, même si je me racontais des histoires, tout ça, j'ai commencé le kayak et puis j'aimais bien en faire. Je me disais, au début, je me suis jamais dit, est-ce que t'es fait pour, est-ce que t'es doué, est-ce que, voilà, j'aimais bien faire, je faisais, j'étais avec un copain, on faisait le kayak, voilà, c'était cool, quoi. C'est comme la muscu, au début, tu fais la muscu, tu sais, tu te poses pas la question, t'aimes bien, tu vois que tu prends de la force, tu prends du muscle, t'es content des sensations, tu te poses pas la question. Après, tu peux te poser la question, au bout d'un moment, je sais pas si t'as commencé, je sais pas, à 10 ans un sport, et puis ça fait 7-8 ans que t'en fais, et puis la question se pose de, est-ce que je vais essayer de devenir athlète de haut niveau, sportif professionnel, essayer d'en vivre tout ça? Là, tu te poses la question, est-ce que j'ai le potentiel pour pouvoir aller plus loin? Est-ce que j'ai l'envie de... Mais sinon, en dehors de ça, tu te poses jamais la question, est-ce que je suis fait pour ce sport? Je sais pas, quoi. Parce que quand tu démarres à 25 ans, à 30 ans, ou après, en fait, tu fais parce que ça te fait plaisir de faire ce sport-là. Et tu verras bien jusqu'où tu vas, tout en sachant que de toute façon, comme tu l'avais dit, maintenant il y a des compétitions de tout, il y a toutes les catégories, que ça va vraiment dans tous les sens, quoi. Donc tu fais d'abord pour toi, ça te fait plaisir, tu t'entraînes, voilà, tu fais ton plan, c'est plus ou moins important, mais tu te dis pas est-ce que je suis doué pour ou pas. En fait, on s'en fout que tu sois doué pour. C'est comme la muscu. Moi qui fais beaucoup d'analyses morpho-anatomiques, que ce soit sur les vidéos que je propose le lundi en général toutes les 2 semaines, ou ceux qui font appel à mes services dessus. Via mon site, encore une fois. Le but, c'est, quand je prends une analyse, c'est d'adapter l'entraînement par rapport à celle-ci. C'est de dire, ben voilà, je veux pas me blesser, ce qui est la base quand même. Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour mieux progresser? Voilà. Mais c'est pas de dire, bah oui, tu seras pas Monsieur Olympia. Et tu le sais déjà. Si t'allais être Monsieur Olympia, tu m'écris pas. Puis t'as pas besoin de conseils. En fait, ça gonfle tout seul, ça se fait tout seul. Quand tu commences à te poser des questions, c'est mauvais signe. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Et là, je pose la question, quel sport de combat je vais faire dans lequel je vais être doué? En fait, pour moi, la réalité, c'est quel est le club le plus proche de chez toi?
Voilà, c'est ça.
Voilà. Quel va être le plus pratique pour aller faire, pour y aller? C'est ça. Et puis tu y vas. Et puis s'il y a une bonne ambiance, c'est vraiment un esprit club, tout ça, bah tu continueras. Ce sera cool. Tu te feras des potes. Voilà, ce sera super. Si tu dois faire une heure de route pour y aller, c'est mort. Moi, je me souviens quand j'avais testé le jiu-jitsu brésilien, c'est parce que là où j'habitais avant d'avoir la villa super physique, et ben en fait, je pouvais y aller à pied. Je pouvais marcher 25 minutes et j'y étais. C'était à 5 minutes en bagnole. Et voilà, je mettais 25 minutes à pied. Puis j'étais content d'y aller. C'était cool, tout ça. Voilà, il y avait une bonne ambiance. Mais je voulais pas spécialement faire du jiu-jitsu brésilien. C'est juste que j'avais des sports de combat. Je voyais ça à côté. C'était en 2015 ou 2016. Et donc, voilà. Mais s'il a fallu faire une heure de bagnole pour y aller, bah, t'y vas pas. En fait, à un moment, tu t'arrêtes. Donc, c'est comme ça que plein de gens, des fois, font des sports de combat, des arts martiaux, parce que c'est proche de chez eux, parce que c'est facile. C'est comme la salle. Tu t'inscris à la salle la plus proche de chez toi, en général, à moins qu'il y en ait 15 dans ta ville, voilà, pas si éloigné. Mais, voilà, c'est vraiment bizarre. Ce truc qu'on arrive, c'est tout le monde veut être champion, mais on se rend pas compte de ce que c'est être champion. Et comme j'interviewe pas mal de personnes avec les secrets du sport, je mets pas mal de trucs aussi sur mon Patreon dans la revue de presse, comme j'en ai pas mal de documentaires, tout ça. En fait, quand tu vois le rythme ce que c'est un champion, la plupart des gens, dont moi, on n'a pas envie d'avoir ce rythme. En fait, on veut pas s'entraîner 4 fois par jour ou 3 ou 4 fois par jour, faire que ça, être crevé. C'est une vie particulière, quoi. Donc c'est pas qu'une question de morphologie, c'est aussi une question d'envie, d'antécédents, de prédisposition comme on dit, c'est plein de choses quoi. Et la plupart du temps t'as envie d'avoir les résultats, t'as envie d'être bon, mais c'est un fantasme parce que t'es pas prêt à faire les efforts qu'il faut. Et ça, j'ai l'impression qu'on y assiste quand même de plus en plus, une décorrélation entre ces objectifs et ce qu'on est prêt à faire, sachant que encore une fois il y a pas de raccourci à la réussite. On peut faire des conneries, ralentir. Ce qu'on essaie de vous éviter avec ces podcasts ou avec l'application SP Training, mais sinon ouais, y a pas de raccourci quoi. En fait, fais et puis tu verras bien où ça mène. Ça se trouve, tu vas te découvrir du talent. Puis ça se trouve, tu t'aimeras t'en prendre plein la gueule. Puis mais ça m'étonnerait. Personne n'aime s'en prendre plein la gueule. Mais moi, j'avoue que les mecs veulent faire des sports de combat. Je me souviens au ancien SP Gym que j'avais avant qu'on déménage en 2017. Il y a un gars qui voulait faire de la boxe. Et je lui disais, non, mais je lui dis, tu vas payer pour que t'en prennes plein la gueule? C'était tous maigrichon, tu sais, on voyait qu'il était pas fort, quoi. Il était pas nerveux, tout ça. Et bon, il avait fait une ou deux séances, et puis c'était pas inscrit, quoi. Je lui ai dit, non, mais je lui dis, tu vas pas payer pour te faire casser la gueule. Je lui dis, moi, je te casse la gueule gratos, si tu veux, hein. Je lui dis, c'est ça, et je serais sympa, en plus, hein, je te ferais pas trop de traces. Mais, non, mais. C'est vraiment, c'est le fantasme du truc, le fantasme d'être champion, quoi. C'est fini. Un champion, il se pose pas trop de questions jusqu'à temps de devenir déjà un petit champion, quoi. Si vous en posez, c'est que vous serez pas champion, hein. Mais bon, c'est pas grave. Tant que vous amusez bien et que vous progressez, c'est cool.
C'est ça. Tiens, sinon, Rudy, tu sais, souvent tu parles d'ego, mais comme l'ego, c'est un terme qui a plein de sens et puis qu'il est pas très rigolo, j'ai vu un autre terme qui permet plus de prendre du recul sur ses différentes activités et de pas trop se prendre au sérieux des fois. J'appelle ça le kikimètre.
Qu'est-ce que c'est que ça, le kikimètre?
C'est le kikimètre.
Ah, ça, c'est dans le titre.
Ben, ça, c'est le kikimètre. Ben, c'est quand, par exemple, imaginons que, on va prendre moi parce que j'aime bien pratiquer l'autodérision. Imagine, voilà, je fais mon rameur et tout ça. Et donc, admettons, voilà, j'ai fait 10 minutes de rameur. J'ai oublié combien de mètres. Mais mettons que, voilà, la semaine d'avant, j'avais fait 2300 mètres. Et la séance d'après, je fais 2310 mètres. Et donc, mon kikimètre a gagné 10 mètres. Et là, je sors
de la
femme
qui doit être contente.
Et là, je sors de la salle, j'ai la banane et tu vois, je me sens viril et tout ça parce que j'ai un gros kikimètre. En gros, c'est ça. Et on peut faire exactement le même truc. Imagine, tu fais du soulevé de terre à la salle pour ceux qui ont envie de se niquer le dos. Et voilà, il y a une séance, ils font 150 et puis quelques séances plus tard, ils vont faire 152 et puis ils se disent, oh là là, qu'est-ce que je suis bon. J'ai un gros kiki. J'ai bien progressé sur mon kikimètre, tu vois. Et en fait, on a tous un kick. Enfin, non, c'est pas vrai, on n'a pas tous, mais on va dire souvent les hommes, on a un peu du kikimètre. Ça peut être le kikimètre sur la voiture.
Mais on peut voir combien de mètres. On peut voir combien de mètres au maximum.
Ouais, je sais. Par exemple, Rudy, lui, il a un petit côté kikimètre sur sa voiture, parce que chaque fois qu'il change de voiture, il me dit, ah, tu verrais, elle m'habite et tout ça, machin. Il me fait rire avec son kikimètre.
Ah, il va avoir un peu de plaisir quand même.
Oh. Il y a le kikimètre de la voiture. Il y en a qui peuvent avoir le kikimètre sur la taille de la maison, le kikimètre sur le compte en banque, le kikimètre sur le tour de biceps, etc. Voilà. Et là, ben, en ce moment, moi, mon kikimètre, c'est donc sur le rameur ou le skierg, peut-être plus tard. Et ce qui est amusant, c'est que là où je suis, donc à Valencia, et j'avais déjà raconté, il y a un immense parc qui s'appelle la Turia, qui occupe c'est un fleuve qui a été asséché, puis ils ont transformé ça en immense parc. Et il y a beaucoup beaucoup de gens qui font du sport là-dedans. Et des fois, je sors de la salle un petit peu en mode kikimètre, en disant ouais, regardez comme moi je suis bon en rameur et tout ça. Tiens, toi, vulgaire passant, je suis sûr que si on te mettait sur un rameur, tu serais tout pas bon. Donc moi, j'ai un plus gros kikimètre que toi. Et toi aussi, autre passant, tu serais moins bon. Bref, en mode kikimètre. Et je me promène ensuite dans cette touria et je tombe toujours sur des gens qui font des machins. Pas extraordinaire, mais quand même par rapport à des gens lambda qui ont un très bon niveau. Donc des fois, il y a des gens qui font du yoga et tu les vois faire des positions qui sont dans des positions avancées ou même pas en position avancée dans le bouquin de yoga que j'ai chez moi, tellement ils sont bons. C'est des filles qui payent pas de mine, qui vont se contorsionner dans tous les sens. Il y a aussi une discipline que moi je connaissais pas, que j'ai vu pratiquer que ici en amateur, où en gros il y a un pont. Voilà, à quelques mètres de haut, ils vont tirer une espèce de toile qui est attachée sur le pont, et après ils vont faire des acrobaties en se servant de la toile. Et souvent ceux qui font ça, c'est des filles. Elles sont super souples et puis déjà un petit peu balèzes parce qu'il faut se tracter avec les bras et tout ça pour faire ces trucs. Et moi, avec mon kikimètre du rameur, eh ben impossible de faire les positions de yoga en question, impossible de faire cette activité sur la toile qu'on suspend. Et alors là, ce midi, j'étais en pique-nique et j'ai vu un type qui devait s'entraîner pour être style Yamazaki ou quelque chose comme ça. Donc, il était sur un point en hauteur, je sais pas, 2 mètres de haut, mais en tout cas, bien plus haut qu'à hauteur d'homme. Et tout d'un coup, le type, je le vois sauter. Donc, il saute et il atterrit dans l'herbe en faisant une roulade. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, oh putain, t'as vu ce que le type a fait? Et le type, il a recommencé une deuxième fois. Et donc, il a sauté d'un point haut et il a atterri au sol en faisant une roulade. Et là, mon kikimètre en a pris un coup. Parce que je me suis dit, mais dis donc, moi, je fais pas ça. Hein. Même en étant payé, je saute pas de ce truc-là. Et bref, tout ça pour dire que c'est le fait que tu m'aies dit que maintenant, il y avait des compétitions de tout, pour tout le monde, sur plein de disciplines et sur plein de distances. Non seulement c'est vrai, il y a des compétitions de tout, mais en plus, même, il y a des tas d'activités dans tous les sens qui ne sont pas nécessairement compétitives et où les gens, des gens lambda, des fois, ils ont leur petit niveau, en fait. Hein, ils sont pas mauvais du tout. Et moralité, quand on est en mode kikimètre comme j'étais, ça refroidit un peu. Enfin, ça rend un petit peu plus humble, si tant est que j'ai oublié de l'être. Parce que vraiment, il y a plein d'activités, puis il y en a qui sont bons dans certaines activités en question. Et ça me rappelle une des nombreuses discussions qu'on avait eues pendant longtemps sur cette histoire d'être fonctionnel ou pas. Et quand je vois toutes les activités que font les gens, et vraiment, ils font des trucs, des fois, tu n'y avais pas pensé, c'est impossible d'être fonctionnel en tout, quoi. Tu peux pas, quoi. Parce que là, il faut déjà y penser de sauter de 2 mètres de haut et puis de faire de la roulade en atterrissant, quoi. Tu n'avais pas pensé cette activité-là. Donc, voilà où je voulais en arriver, Rudy. Non, mais est-ce que tu veux nous confesser les choses pour lesquelles tu es kikimètre? Alors, je sais que la voiture, c'est ton cas.
Non, pas du tout.
Ouais, un petit peu. Hein. T'es chrono-kayak aussi. T'es pas mal
non,
en mode kikimètre
là-dessus. Non, même pas. Non, en fait, je suis pas dans la comparaison, donc j'ai passé ce cap, donc ça va. Je fais les trucs pour moi. Quand ma bagnole, je donne un exemple, quand je vois ma bagnole, à chaque fois que je la vois, je dis putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette bagnole. C'est celle que je me dis, est-ce que à chaque fois que tu veux acheter une bagnole, ceux qui sont un peu comme moi, tu dis ah j'aimerais qu'elle soit belle, qu'elle aille vite, qu'elle ait la possibilité d'aller vite parce qu'on peut pas trop rouler. Mais voilà. Et là, quand je la vois, je dis bon, y a aucune autre bagnole que j'aimerais. Mais c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi.
Oui, bien sûr, je dis. Mais est-ce qu'il y a des fois, par exemple, tu vas faire un chrono meilleur que d'habitude au kayak et tu vas te sentir excessivement content et content de toi-même, tu vois, mais de manière un peu excessive parce que finalement, ouais, t'as juste fait un bon chrono de kayak, tu vois.
Parce que je me rends compte maintenant de la futilité de tout ça. Même si j'arrive à me motiver, à être à fond, comme je dis à chaque fois, limite à être crise cardiaque sur des tests ou quoi, vraiment, j'ai l'impression que je vais exploser. En fait, je me rends bien compte que ça, c'est un moyen pour moi de m'exprimer, mais c'est futile, ça n'a pas de sens. C'est comme j'en parlais ce matin, j'ai un élève en BPJEPS qui m'a demandé, on parlait d'objectifs, tout ça, et donc on parlait un peu de la vie, il est un peu jeune, il doit avoir 25, 26 ans. Et il y a un gars un peu plus âgé qui disait, moi j'ai pas d'objectif, je veux juste être peinard, il veut faire sa vie, tout ça. Et lui, il comprenait pas, tu vois. Et je dis, mais si, mais tu verras. Je dis, pour l'instant, t'es en compétition avec tout le monde, mais ça va te passer, en fait. C'est parce que je sais pas pourquoi, mais on a, peut-être dans l'être humain, j'ai pas bien réfléchi au truc, mais on a toujours envie de se comparer aux autres, d'être meilleur que les autres, d'être mis en avant. Tu vois, c'est comme les jeunes maintenant qui disent, ouais, je veux être célèbre, je veux être une star, voilà. C'est toujours au détriment des autres. Et ça, je pense que on l'a pas mal appris avec, en s'ouvrant. Je pense en s'ouvrant vis-à-vis de la musculation à d'autres activités. Qu'en fait, on se prenait pour des guerriers, des cadors, voilà, tout ça. Et en fait, bon, bah, on était plus ou moins bon dans notre activité. Il y avait toujours meilleur. Mais en fait, il y a tellement d'activités, tellement de choses qu'on peut faire avec le corps humain que bon, ça apprend l'humilité. Quand on regarde, on dit putain, mais c'est incroyable. Pour moi, qui a un
documentaire. Mais tu sais, souvent, on a l'impression que c'est sa propre activité qui est la plus difficile.
Pas du tout. Comme la muscu. Ouais. À un moment, on disait la muscu, c'est super dur parce que c'est pas 4/24. C'est la diète, c'est l'hygiène.
Ce qui est un peu vrai, parce que c'est vrai que quand tu es dans la muscu, si tu fais gaffe avec la diète, t'es un peu en mode 24/24.
Oui, mais c'est un peu vrai. Normalement, ça devrait être un truc. Manger sainement, ça devrait être voilà les bases de tout. Bon, c'est pas le cas, c'est n'importe quoi, mais ça devrait être les bases. Mais c'est vrai que l'activité muscu en tant que telle, bien que tu forces comme un fou tout ça, quand tu forces comme un fou, en tout cas, c'est assez court quoi. Tu forces, mais c'est pas si dur. Car quand je fais un test 10 km au kayak, je peux te dire que c'est beaucoup beaucoup plus dur. Mais je dirais pas que le kayak c'est un sport super dur. Il y a des trucs que je vois, je me dis waouh, là c'est vraiment balèze. Je me dis là, il y a des trucs beaucoup plus durs. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir se valoriser par rapport à ce qu'on fait vis-à-vis des autres, à se faire un peu mousser ou à se mousser soi-même, quoi.
Ouais,
alors qu'en fait, c'est piteux, quoi. C'est ridicule, quoi. T'es nul. Non, mais là, c'est pour ça. Même quand je fais un bon chrono au kayak, moi, j'ai plus cette tendance. Et j'ai un pote qui écoute, là, qui est un peu pareil. Il fait du paddle et on fait nos chronos. Et tu vois, on bat notre record. Et à chaque fois, moi, je finis, je dis, ah, j'aurais pu faire mieux. Je me dis, merde, j'aurais pu faire mieux. Alors, je suis content sur le coup. Mais je me dis rapidement, ah, j'aurais pu faire mieux, là, j'aurais pu accélérer ici, ah, putain, j'ai ralenti ici, j'aurais dû changer de pagaie, j'aurais dû faire ci, nanana. Et toujours un peu dans l'optimisation, tout en sachant que c'est quand même assez ridicule, quoi. C'est accordé beaucoup d'importance, mais en même temps, on est dans un monde tellement confortable, du moins nous, là, en Occident, que bon, on se cherche des activités pour s'occuper et voilà, donner un sens à ce qu'on fait. D'ailleurs, demain, j'ai un test 10 000 mètres, Fabrice, au kayak. Donc, j'espère que le lac sera bien. Parce que je vais tout donner pour battre mon record.
C'est ça.
Et je serai tout seul. Alors, qui va me mousser après? Qui va me mettre de la mousse?
Eh ouais. Mais tu sais que sur le concept 2, là, tu peux envoyer tous tes chronos sur Internet. Et du coup, après, t'as
un classement.
Ouais, t'as un classement et tout ça. Enfin, t'as des kikimètres dans tous les sens, hein, ça. Et du coup, sur le forum concept 2, tout pratiquant qui se respecte un peu a son lien vers son kikimètre et tout ça.
Bien sûr, mais moi, quand j'y étais, je mettais mes trucs aussi aux 500, aux 5000, aux 1000, quand j'avais fait le 1000 aussi. J'avais mis tous mes trucs. Je regardais comment j'étais classé niveau mondial, tout ça. C'est sûr que tu fais, mais c'est vrai que cette histoire de comparaison, en fait, ça t'apprend aussi l'humilité, parce qu'à un moment, tu te rends compte que t'es nul, quoi. À moins que tu sois le meilleur sur le moment, mais c'est rare. Mais ça t'apprend qu'en fait, putain, il y a des types vraiment super, super forts.
Oui, mais c'est ça. Parce que quand je vais à la salle, des fois, j'ai l'impression d'être super bon, vu que tout le monde en a rien à foutre du rameur, donc ils sont tous nuls. Mais c'est vrai que dès que je regarde un peu sur Internet ceux qui ont un petit peu de pratique du rameur, eh ben effectivement, je suis débutant en fait, tu vois. Mais à la salle, je suis élite. Mais dès que je suis avec des gens qui en font un petit peu, eh ben là, ça y est, je redeviens débutant. Ouais, le kikimètre en prend un coup.
Bah ouais, un exemple avec Bolette. Quand on fait des séances, si on doit forcer tout ça, bah voilà, je suis devant. Il y a pas trop de choses, que ce soit du très court, des sprints où je suis pas très bon, mais dès que c'est un peu long, je suis devant. Quand je vais au Gros du Roi, j'arrive, je suis mauvais, quoi. Je me prends des tarifs. Après, c'est des jeunes qui ont 20 ans et quelques, et je prends des tarifs. Je me dis, putain, mais c'est incroyable. Alors qu'avec Bled, j'arrive, si j'accélère vraiment comme un fou, bon, bah voilà, je suis devant. Alors qu'au Gros du Roi, si j'arrive à finir la séance avec les jeunes, bah c'est un miracle, quoi. C'est vraiment... j'étais en forme olympique, parce que sinon, je peux pas finir la séance à côté d'eux, quoi.
Je comprends.
Donc après, faut-il être, Fabrice, le meilleur des nuls ou le nul des meilleurs? Qu'est-ce que tu choisis?
Non, je sais pas. Non, je choisis pas. Mais je trouvais que c'est, voilà, je voulais partager ce mot-là du kikimètre parce que je trouvais ça assez rigolo. Parce que souvent, Rudy dit, ah, on se fait dicter par l'ego. Mais comme bien l'ego, sûr. Ça a plein de sens, on n'y arrive pas. Alors que là, c'est plus facile de dire, oh là là, je suis un peu en train d'être fixé sur mon kikimètre. Faut se calmer. Et puis voilà. Je voulais revenir sur un truc. À un moment donné, d'ailleurs, j'avais fait pas mal de comparaisons où j'avais comparé la musculation avec le rameur en disant, bah voilà, on peut remplacer les poids par des watts, voilà, les distances par des répétitions, etc. Enfin bref, il y avait plein de chiffres aussi. Et exactement comme pour la musculation, il y a des types qui vont commencer le rameur et être super bons. Alors en muscu, on a déjà vu des types qui assez rapidement, voire dès la première fois où ils font du développé couché, ça arrive, ils peuvent faire un maxi, je sais pas, tu me diras si c'est crédible, Rudy, parce qu'à force j'ai oublié, à peut-être 80 ou 90 kilos, ça peut se voir. Peut-être quelqu'un qui a un passif un peu judo, rugby, qui est costaud, il se tente au coucher puis fait 90 la première fois.
Oui, bien sûr.
C'est possible, on va dire. Alors que voilà, il y a des débutants, il va leur falloir peut-être un an d'entraînement pour faire 90 en maxi. Et il y en a même, ça se trouve, s'ils s'entraînent pas bien, ils y arriveront pas. Et ben l'autre coup, je regardais un log sur un forum Concept 2. Et le type, en question, au bout de quelques semaines de rameur, il tente un 2000 mètres et il fait un 2000 mètres en moins de 7 minutes. Et voilà. Première fois qu'il fait le 2000 mètres, moins de 7 minutes, s'il dit la vérité. Et effectivement, c'était enregistré sur le concept 2 comme ça.
Oui, mais c'est possible parce que moi, je pense que si je le fais, je fais moins de 7.
Bah ça, je sais pas. Peut-être, oui, Rudy, c'est possible. Mais ouais, donc voilà. Alors que moi, il va me falloir beaucoup d'entraînement pour descendre sur les 7 minutes. Et donc, c'est exactement comme la muscu. Il y en a qui sont doués ou qui ont l'antécédent. Et voilà, donc, tout pareil.
ouais, mais non, mais c'est sûr, il y a des avantages. Mais bon, en gros, la conclusion, c'est... on est nul et on sera un peu moins nul avec de l'entraînement. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, on serait déjà champion et on se poserait pas ces questions, quoi.
Enfin, on est où, mon cher Rudy?
Eh ben, on arrive au bout. Avant de conclure, je voulais passer une petite dédicace parce que mes élèves me l'ont demandé, mes élèves en BPJEPS, notamment Cindy et Leslie, de faire une petite dédicace à leur maître de stage. Donc, tu sais, quand tu fais un BPJEPS, t'as un stage en salle. Et donc, a priori, Nelson écoute tous nos podcasts. Et donc, on lui passe bien le bonjour. Et donc, il a mes deux élèves, Leslie et Cindy, dans sa salle. Donc, j'espère qu'il en prend soin. En tout cas, elles sont bien parties pour avoir leur BPJEPS. Hein. J'ai pas trop de soucis à me faire pour ces deux-là. Donc, et donc, sur ce, eh ben, on arrive au bout de cet épisode. On espère, donc, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez réagir, n'oubliez pas, vous pouvez le faire sur les commentaires sur SoundCloud, mais également sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec l'épisode, n'hésitez pas à les mettre sur les forums Superphysique. On vous réinvite à essayer l'application SP Training. Vous n'allez pas être déçus. Je peux vous le dire. C'est le top du top. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous.
Moi, je vous retrouve dans 15 jours. Et alors, plutôt que de commenter le véganisme, faites un travail d'introspection et mettez en commentaire de la vidéo YouTube vos kikimètres. Ce sera plus intéressant. Allez, salut.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.